Alors, vous allez me dire, Père Barthélémy, vous êtes un peu dépressif, vous avez parole quand vous avez préparé votre topo. Il y a aussi des modèles de l'Avent, c'est sûr. Il y a deux grands modèles de l'Avent. Et j'aimerais qu'ils puissent nous accompagner. En même temps, il faut savoir que, avoir l'humilité de reconnaître qu'on est plus proche de l'hôtelière que de la Sainte Vierge, hein. Voilà, ça, c'est les aléas de notre vie chrétienne, mais c'est pas grave. En même temps, c'est bon de prendre conscience de ce qui nous retient dans notre chemin vers le Christ. Comme il est bon aussi d'avoir les yeux tournés vers ceux qui sont pour nous des modèles. Et pour moi, il y a deux avants particuliers qui n'ont rien à voir, qui est l'avant de Joseph et l'avant de la Vierge Marie. Ce sont pour nous des modèles à la fois de foi, d'espérance et de charité, parce que c'est eux qui vont nous indiquer au fond la façon la plus belle de vivre ce temps de l'avant. Et ce qui est très impressionnant, hein, eux qui ont été certainement le modèle le plus beau du couple, c'est qu'ils n'ont pas du tout vécu la même chose pendant ce temps de l'Avent. Le temps de l'Avent pour la Vierge Marie, c'est, j'allais dire, un Avent qui est marqué par la découverte d'une présence et par la joie. C'est un moment très doux pour elle. Vous imaginez se sentir choisie par Dieu pour une mission qui est unique. À la fois, il y a en elle beaucoup de crainte, pas de peur, mais de crainte. La peur, elle nous éloigne de Dieu. La crainte, au contraire, elle nous fait prendre conscience de notre petitesse face à la grandeur de Dieu. Donc, on sent dans le récit de l'Annonciation combien Marie est saisie de crainte. Comment cela va-t-il se faire? Parce que je ne connais pas d'homme. Et d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est que tout de suite, elle va aller au devant de ce que l'ange lui propose en disant comment cela va se faire. Elle dit pas, oh là, ça semble bien compliqué ton truc. Non, elle est déjà dans l'ordre de la réalisation. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Et à ce moment-là, l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle a compris, parce que c'est quand même pas très pratique comme réponse, hein. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. En tout cas, elle y a vu, elle y a senti et aperçu la promesse de Dieu qu'il accomplirait ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé. Ce que je trouve très beau, c'est que pour moi, l'avant de Marie, c'est la prise de conscience par elle, en fait, d'une vocation, qu'elle est unique aux yeux de Dieu et que sa mission, personne ne pourra la faire à sa place. Elle est attendue, désirée par Dieu, appelée à vivre quelque chose. Et je trouve important de ne pas minimiser, j'allais dire, l'acte de foi complètement fou que Marie a posé à ce moment-là. Je ne sais pas comment vous réagiriez-vous, mesdames, si un jour un ange rentre et vous dit que vous allez accueillir la naissance du Seigneur. Donc ça, déjà, c'est le premier acte de foi. Mais ensuite, pendant 30 ans, hein, Jésus était un enfant comme les autres. Il a joué comme les autres, il a grandi comme les autres, il a appris un métier comme les autres. Pendant 30 ans, Marie a cru dans les paroles de l'ange, alors que ce qu'elle voyait, c'était un enfant. Un enfant qui allait à la synagogue avec eux, qui faisait leur pèlerinage annuel à Jérusalem. Pendant 30 ans, à un moment, elle disait, on va peut-être se réveiller là quand même, Jésus. Mais c'est pour moi le début de l'Avent pour la Vierge Marie, c'est vraiment un acte de foi. Au départ, elle a cru qu'il y avait quelque chose qui se passait en elle, alors qu'elle ne voyait rien. Elle n'avait aucun. C'est important, vous voyez, de ne pas faire de Marie une sorte de semi-divinité qui aurait une sorte de préscience divine et qui fait que pour elle tout aurait été simple. Non, elle a dû poser des actes de foi pendant 30 ans, jusqu'à ce que Jésus commence à dévoiler un tout petit peu son mystère, à rentrer dans sa vie apostolique, à commencer à faire des miracles. Mais pendant 30 ans, il n'y a rien eu. Elle avait un enfant dont on lui disait que c'était le Fils de Dieu, et puis, finalement, elle ne voyait pas grand-chose. C'est, je pense, le chemin de foi de Marie qui a marqué l'avant, avec cette expérience, bouleversante de cette présence qui l'habitait. J'envie, c'est vrai, beaucoup les femmes enceintes, parce que je trouve que de sentir que en vous, vous avez une présence qui n'est pas vous, mais qui vous habite. En fait, on est tous des femmes enceintes ici. C'est-à-dire qu'on a tous à prendre conscience, comme la Vierge Marie, qu'il y a une présence qui nous habite, en fait. Il y a quelqu'un qui se déploie en nous, qui se forme en nous, qui vient prendre possession de notre vie, de notre corps, de tout notre être. Et d'une certaine façon, le mystère de la nativité pour nous, ce sera pas Noël, hein. Cet après-midi, j'étais dans une maison de retraite avec des gens, et je les ai remerciés parce que, d'une certaine façon, elles vivent l'avant, elles. Elles savent qu'elles attendent la naissance, la vraie naissance, la naissance au ciel. Quelqu'un qui me racontait ça, qui a eu cette expérience à la fois terrible qu'on souhaite à personne et en même temps bouleversante, d'accompagner son mari au seuil du grand passage. Et son mari était très malade à la fin, avait la tête sur le côté, pouvait plus relever sa tête. Et elle raconte que dans les derniers instants, avant que cet homme s'en aille vers le ciel, il s'est relevé, il a relevé sa tête, comme pour passer le col et naître. Et son visage était paisible. C'était sa naissance, sa vraie naissance. Et d'une certaine façon, l'avant pour nous, c'est ça. C'est prendre conscience que nous sommes en gestation. Nous sommes en train de naître. Alors parfois, la tête, elle passe pas très bien. Mais que pour nous, le mystère de la nativité sera la rencontre du Christ. Et ce que nous disait de façon si belle Monseigneur Ray la semaine dernière, nous oublions en fait ce pourquoi nous sommes faits. C'était le drame, je pense, du peuple d'Israël. Mais Marie, elle savait pourquoi elle était faite. Et c'est important que pendant ce temps de l'Avent, si on veut vraiment le vivre avec la Vierge Marie, c'est se rappeler en fait le sens de notre vie, notre vocation, notre appel, et que nous n'avons d'autres buts dans l'existence que de nous préparer à cette naissance. Et puis, de l'autre côté, si on compare, vous voyez, il y a deux évangiles, il y a l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. L'évangile de Luc nous fait cheminer avec Marie, et l'évangile de Matthieu nous fait cheminer avec Joseph. Et là, on se rend compte que pour Marie et Joseph, c'est pas du tout la même chose. Et il y a une grande question, je pense que j'aime beaucoup Saint Joseph. Je trouve que c'est un grand personnage, c'est un beau modèle de masculinité. C'est un beau modèle de paternité, c'est un beau modèle de sens du service, de silence, en même temps d'action. Alors ça sera l'homélie de dimanche, donc pour ceux qui veulent entendre parler de Saint Joseph, venez dimanche soir. Je vous parlerai de Saint Joseph, comment il est pour nous un modèle pour les hommes. Mais il y a une chose que je poserai comme question au Seigneur en arrivant au ciel, c'est pourquoi est-il été aussi précautionneux vis-à-vis de la Vierge Marie? Il lui envoie un ange, l'ange Gabriel, il lui demande son acquiescement, alors que Joseph, il était mis au pied du mur. C'est-à-dire qu'on lui a pas demandé, il a découvert que sa femme était... Alors, il n'y a pas eu cette délicatesse de Dieu qui dit, tu sais, et puis Joseph, il va faire des sacrifices qui sont importants. Un homme qui n'a pas une vie sexuelle, bon, c'est déjà difficile, hein. Et en plus, il n'a pas d'enfant. Il s'est peut-être représenté les choses. Il aurait bien aimé avoir 2-3 enfants, leur apprendre son métier, avoir des petits-enfants. Vierge Marie, elle va avoir un enfant. Ce sera son fils. Il aura ses traits. Joseph sera quelqu'un qui va être le protecteur, l'époux chaste de Marie. Renoncement. Il n'aura pas d'enfant, sera le père adoptif de Jésus, mais Jésus ne sera pas son fils. Et on lui a pas demandé son avis. Il avait de quoi être un peu en colère, le Joseph, hein, pendant l'Avent. Bon, vous êtes sympa, mais... Et effectivement, je trouve que la grandeur de Joseph pendant ce temps de l'Avent, c'est d'avoir consenti à un chemin de Dieu qui lui était imposé. Nous, on aimerait bien, hein, dans un monde un peu imaginaire, que Dieu nous demande toujours notre avis, que nous n'ayons qu'à consentir à ce que Dieu nous propose. Et puis, il y a de temps en temps quelque chose où ça va s'imposer à nous. La maladie va s'imposer. On l'a pas choisi. Et Joseph, il est le modèle de celui qui accepte ce qui s'impose à lui sans que sa liberté lui soit demandée et qui va accepter cette contrainte, qui va l'accepter avec foi, qui va l'accepter joyeusement. Et il va faire de cette contrainte, au fond, son chemin de sainteté. Et je trouve que ça, c'est vraiment la grandeur de Joseph. Il fera le deuil d'une part de sa vie d'homme pour découvrir une autre fécondité, une autre paternité. Il ne s'arrêtera pas à son doute, à son incompréhension, mais il acceptera de faire confiance et d'être pour la Vierge Marie un rempart. Parce que l'enfant Jésus n'aurait pas pu vivre auprès de sa mère si elle avait été un fils illégitime. S'il avait été un fils illégitime. Donc il a donné la possibilité à Marie et à Jésus de pouvoir remplir leur mission. Il leur a offert une sécurité, il leur a offert un socle, et il a permis, autant que la Vierge Marie, alors que lui était pécheur, hein, la Vierge était immaculée, mais lui, Je pense que de temps en temps, il devait peut-être gueuler un bon coup en disant, c'est quand même un peu rude cette histoire. Mais il a permis autant que la Vierge Marie à ce que Noël puisse se faire. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes pendant ce temps de l'Avent plus marqués par cette présence paisible et douce. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes plus comme Joseph, confronté à un chemin qui vous est imposé, que vous avez du mal à choisir. Mais prenons la main de Marie et de Joseph. Marie qui va nous conduire vers l'intériorité, Joseph qui va nous conduire vers le courage. Et c'est avec à la fois cette conscience que Jésus nous habite et en même temps avec courage que nous pourrons les uns et les autres cheminer vers la crèche. Alors maintenant, je vais vous proposer un truc tout simple. On va méditer le chapelet, mais j'ai composé un chapelet qui s'appelle le chapelet de l'Avent. Alors c'est pas les mystères de la Nativité, donc ce sera les mystères de l'Avent. Donc cinq passages de la parole de Dieu, cinq petits événements, l'Annonciation, la Visitation, le Magnificat, l'annonce faite à Joseph et les bergers. Et au cours de ces cinq dizaines, chaque fois, je vous inviterai à réfléchir sur une dimension du mystère de l'Avent, une dimension du mystère de l'attente. Premier mystère de l'Avent, l'Annonciation. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui es la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Pendant cette dizaine, nous pouvons demander au Seigneur la grâce de croire qu'il a un plan pour nous, une mission, un appel. Nous pouvons lui demander la grâce d'apprendre à lui faire confiance, de croire en sa puissance. Rien n'est impossible à Dieu. Deuxième mystère de l'Avent, la visitation. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit « Tu es bénie plus que toutes les femmes, bénie aussi est le fruit de ton sein. » Au cours de cette dizaine, nous pouvons demander au Seigneur la grâce d'une charité qui s'ouvre aux besoins des autres, d'un amour qui ne se capitalise pas. Il n'existe pas d'amour que lorsqu'il se donne. Demandons au Seigneur de savoir aller au-devant des besoins de nos frères, comme l'a fait la Vierge Marie, de savoir nous porter vers notre frère, vers notre sœur, savoir aussi l'accueillir dans ses besoins. Troisième mystère de l'Avent, le Magnificat. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur. » Parce qu'il a porté son regard sur son humble servante, oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Au cours de cette dizaine, nous allons méditer ce Magnificat de la Vierge Marie. Nous pouvons demander au Seigneur la grâce d'être plus reconnaissant pour ce qu'il nous donne. La grâce de choisir de vivre et de demeurer, quelles que soient les circonstances, dans la louange. Quatrième mystère de l'Avent, Joseph assume la paternité de Jésus. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Seigneur, nous voulons te présenter au cours de cette dizaine tous nos désirs contrariés, toutes nos attentes non réalisées ou déçues. Nous voulons te demander d'accepter que tes chemins ne sont pas forcément les nôtres et nous voulons croire qu'ils sont bons. Nous voulons croire que malgré nos incompréhensions et nos contrariétés, malgré nos épreuves, le chemin que tu nous donnes à vivre est un chemin de bénédiction sur lequel tu marches avec nous. Cinquième mystère de l'Avent, l'annonce des anges aux bergers. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour vous une grande joie. » Seigneur, au cours de cette dizaine, nous voulons te demander de grandir dans l'humilité. Toute l'Écriture nous enseigne et nous montre que c'est aux pauvres que tu aimes te révéler en premier, aux petits, aux faibles, à ceux qui savent qu'ils n'ont pas de droit, que tu ne leur dois rien, à ceux qui peut-être ne s'y attendent pas. Seigneur Jésus, nous avons tellement conscience d'être quelqu'un, d'être des personnes. Nous n'avons pas suffisamment conscience que nous sommes des êtres petits, qui recevons tout de ta grâce. Saint Paul disait « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Au cours de cette dizaine, Seigneur, nous voulons te demander la grâce d'une humilité plus grande, d'une conscience de notre petitesse plus grande, d'une simplicité plus grande. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de notre veillée. Le rosaire restera sur le sanctuaire jusqu'à Noël, on le mettra sous le côté, avec les corbeilles. Alors si pendant ces prochains jours, vous voulez inviter quelqu'un à venir faire accrocher son petit nœud, ou si jamais vous avez posé un acte de foi particulièrement important pour vous et que vous voulez continuer à venir à vous accrocher, comme ça, accrocher votre vie à ce symbole qui est le symbole pour nous de Marie qui nous accompagne. Vous pouvez continuer à le faire jusqu'à Noël. Et puis, puisque les anges aux bergers ont annoncé au peuple une grande joie, une bonne nouvelle pour tout le peuple, je vous invite à vous lever. Et puis nous allons justement louer le Seigneur, lui rendre grâce pour son amour et sa tendresse.